France Inter.
Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, Eminem, l'enfant terrible du rap. Plusieurs centaines de millions d'albums vendus, 15 Grammy Awards, un Oscar. Il suffit parfois de quelques chiffres pour donner la mesure d'un phénomène. Quand Eminem surgit de Détroit en 1999, après des années de galère, c'est une déflagration artistique, médiatique et politique. Jusqu'à 2004, en 5 ans et 4 albums sans s'arrêter, il atteint les sommets et devient l'icône mondiale de la musique pop. Parce qu'il est un rappeur de génie au flow inédit et unique, parce qu'il crée la polémique et provoque le scandale avec des morceaux et des déclarations misogynes et homophobes, parce qu'il est le premier blanc à vraiment s'imposer dans cette culture afro-américaine qu'est le hip-hop, et enfin, parce qu'ils sont les failles et les impasses d'un pays en crise, le phénomène Eminem en dit long sur ce moment charnière de l'histoire du rap et des États-Unis. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Jean Morel, fondateur du média rap Grunt. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire Simon Maisonob, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Hélène Bizio.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Détroit, ou Detroit, États-Unis, 17 février 96. L'image a le charme des vidéos digitales de l'époque. La caméra tremble, le cadre est hasardeux, les pixels sont légion. Mais l'essentiel est là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a quelqu'un qui filme. Et s'il filme, c'est qu'il se passe quelque chose, ce jour-là, au hip-hop shop de la Seven Mile Road de Détroit. Depuis quelques mois, tous les samedis après-midi, Deshaun Holton, alias Proof, un rappeur local de 23 ans, organise dans ce magasin de vêtements des battles de rap. Ces derniers temps, dans les rues de New York, Chicago, Los Angeles, partout à travers les États-Unis, c'est le retour en force de ces affrontements artistiques improvisés. Alors le principe est simple, un MC pour animer, deux rappeurs pour s'affronter à coups de rimes et de punchlines, et le public pour arbitrer. Ce 17 février 96, sur les images, Proof a le sourire. Il est venu avec son meilleur ami Marshall Bruce Mathers III, alias Eminem. Contraction de ses initiales, M et M, et jeu de mots avec les célèbres sucreries favorites du jeune homme. Si Proof a le sourire, c'est que leur numéro est bien rodé. Proof et Eminem, cela joue White Man Can Jump, une comédie à succès sortie quelques années plus tôt, où Woody Allen humilie des joueurs de basket de rue trop confiants, partant du principe qu'il est nul parce qu'il est blanc. Eh oui, Eminem est blanc, ce qui dans le rap n'est pas légion, et dans une ville aussi divisée entre noir et blanc que Détroit, de surcroît. D'ailleurs, sur ces vieilles images digitales filmées ce jour-là, on le voit, le jeune homme est quasiment le seul blanc dans la foule. En tout cas, il est le seul à se lancer dans le battle. Sauf qu'Eminem a une autre particularité, et ça explique aussi le sourire de Proof. Il a un talent hors norme pour le rap. Il excelle, notamment dans cet exercice où il s'agit autant de rimer que de vanner. Eminem a 9 ans quand son oncle lui offre son premier disque de rap, Reckless, du rappeur Ice-T. Le jeune Marshall Mathers découvre le rap hardcore, la puissance des mots et du flow, cet art incroyable où se mêlent poésie, storytelling et musique. Au collège, il rencontre Proof, avec lequel il commence à rapper et freestyler partout où ils peuvent. Rue, battle, radio locale. Lors d'un passage radio, justement, Eminem est repéré par deux producteurs de Détroit, les frères Bass. Il lui propose de produire son premier album. Avec ce premier disque, Infinite, on en apprend un peu plus sur Eminem. Il y raconte sa vie de galère dans le ghetto de Détroit, son boulot à la plonge dans un resto, sa relation tortueuse avec sa copine Kim, rencontrée quand il avait 15 ans et elle 12. Il évoque la naissance de leur fille, Hayley, alors qu'ils sont très jeunes, on imagine les difficultés rencontrées pour l'élever. Et surtout, son envie de se faire sa place dans le rap et de devenir numéro 1. Voilà pour le fond. Sur la forme, Eminem s'inspire beaucoup des flots de rappeurs phares de l'époque, comme Nas. L'album sort en novembre 1996 et fait un flop. Oui, on critique son style trop copié, justement. Eminem tombe dans la dépression, l'alcool, la drogue, il fait même une tentative de suicide. Mais Proof ne le lâche pas. Avec d'autres rappeurs de Détroit, il crée un groupe, D12, Dirty Dozen. Et c'est Proof qui propose aux autres membres de s'inventer des alter-ego de rappeurs, des personnages volontairement excessifs ou outranciers avec lesquels ils pourraient dire ce qu'ils veulent.
Ce nom m'est venu alors que j'étais aux toilettes. Les gens croient que je dis ça pour les conner, mais c'est vraiment arrivé comme ça. J'étais en train de chier.
Il m'a appelé en me disant « Mec, je suis aux chiottes, j'ai trouvé mon nom. C'est Slim Shady. »
Le nom a jailli et direct j'ai pensé à des tonnes de trucs qui riment avec.
Los Angeles, 24 octobre 97. À côté de l'aéroport Lax, dans une petite salle de la Cité des Anges, où le soleil change du froid de Détroit, Eminem se rend au Rap Olympics, compétition nationale qui réunit les meilleurs freestylers du pays. Bon, il hésite un peu à s'y rendre, mais le prix, $500, une Rolex tout de même, l'encourage, vu la misère dans laquelle il est. En plus, il a enregistré une nouvelle bande démo, avec 6 titres où il fait rapper son double, le personnage de Slim Shady, qu'on pourrait traduire par « maigrichon malicieux ». Peut-être qu'il y aura des professionnels de l'industrie à qui la remettre, cette bande. Bien, la compétition commence, Eminem fait son premier freestyle, et un gars assis à côté des juges crie au-dessus de la foule « Arrêtez tout, c'est bon, ce gars a gagné la compétition ». Pourtant, il perdra en finale. Pour tout le monde, Eminem en tête, c'est clair que c'est parce qu'il est blanc. Peu importe, le destin lui n'est pas sourd. Ce jour-là, un stagiaire d'Interscope, la maison de disques de Jimmy Iovine, ingénieur du son et producteur, notamment pour Bruce Springsteen et John Lennon, récupère la démo d'Eminem et la donne à son boss. Il se trouve que Iovine travaille avec un certain André Young, alias Dr. Dre. Rappeur et producteur de génie, derrière le groupe phare de la côte ouest, N.W.A., qui a notamment fait scandale à la fin des années 80 avec son titre « Fuck the Police ». Il a ensuite produit Tupac ou Snoop Dogg, les plus gros succès rap de l'époque, qui font passer le genre dans une autre dimension. Oui, Dr. Dre impose un style nouveau, le gangsta rap, et popularise ce qu'on appelle la G-Funk, un rap boosté au sample de funk.
J'étais chez Jimmy Iovine et il m'a fait écouter la démo d'Eminem. Je lui ai dit, mec, file-la moi, il me la faut. Je ne savais même pas que c'était un gamin blanc à ce moment-là. J'ai rencontré Eminem chez Interscope, on a discuté 5 minutes et boum.
Salut les enfants, vous aimez la violence ? Le 23 février 1999, c'est avec My Name Is qu'Eminem se présente au monde. Ou plutôt, Slim Shady, son double maléfique. Dès ce premier titre, on entend la recette de cette rencontre magique entre Dre et Eminem. Ce morceau en forme de ritournelle terriblement efficace. L'alliage entre le son de la côte ouest de Dre et la voix aiguë d'Eminem, avec laquelle il rappe dans un flow hallucinant et rime comme personne, eh bien c'est simple, on n'avait jamais vu ça. Eminem installe le personnage de Slim Shady et développe ses obsessions. La drogue, le sexe, la violence. Il se moque des célébrités comme les Spice Girls, Britney Spears ou des rappeurs rivaux. Dans le clip du tube L'esthétique cartoon, il se déguise en Bill Clinton, le président américain, ou Marilyn Manson, le rocker infréquentable. Le tout avec des images et des mots particulièrement vulgaires et crus. Beaucoup d'homophobie et de misogynie, notamment contre sa petite amie et mère de sa fille, Kim. Dans l'un des morceaux, Bonnie and Clyde, Slim Shady raconte à sa fille qu'il a tué sa mère et qu'il va jeter le corps à l'eau.
Baby, your dad loves you.
Derrière l'outrance, Eminem se raconte aussi, et sans phare, l'abandon de son père, sa mère qui se drogue. « Je viens de découvrir que ma mère se drogue plus que moi. Merde » chante-t-il. Dans Brain Damage, il raconte le harcèlement qu'il a subi à l'école, notamment son passage à tabac par des élèves, qui le plonge plusieurs jours dans le coma. En décor de tout album, on a bien sûr Détroit, Motor City, qui fluctue de crise en crise, sa violence sociale, sa violence de cour, la vie dans les caravanes et les baraques. Mais on entend aussi Détroit la musicale, où est né le son Motown des années 60, ou la techno dans les années 80. Bref, une ville et une vie qui influencent Eminem.
Tu sais, je dirais que je représente, j'ai l'impression de représenter le hip-hop. Je l'ai vécu toute ma vie, et je le connais, j'ai grandi avec. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je dirais que mon son s'adresse à tous ceux qui ont déjà vécu des conneries dans leur vie. Ont déjà vécu des moments sans importance ou quoi que ce soit d'autre, tu sais, ce qui nous arrive à peu près à tous. Je représente donc ces personnes. Tout ce que je fais, c'est refléter ce qui s'est passé dans ma vie, dans ma musique. Tu vois ?
Quel genre d'influence apportez-vous dans votre musique ?
Mon cul.
Mais à Interscope, personne ne veut les miens. Tous demandent à Dre et Iovine ce qu'ils veulent faire de ce blanc qui chante des obscénités avec cette voix aiguë et qui se déguise en jouant avec son sexe. En dehors des Beastie Boys, un groupe de la fin des années 80, pratiquement aucun rappeur blanc n'a rencontré de succès. Pire, les Marky Mike ou autres Vanilla Ice ont été plus moqués qu'écoutés. Eminem, lui aussi, est attaqué par certains afro-américains qui voit dans son succès une trajectoire à la Elvis, ce blanc qui vole la musique des Noirs, ou comme les Stones, qui tirent leur rock de la musique blues. Surtout que de son côté, Dr. Dre n'est pas en position de force à Interscope. Il vient d'enchaîner plusieurs échecs commerciaux. Alors, le voir prendre ce risque, ça, vraiment, personne ne comprend. Mais lui, sait. C'est comme ça, il a la science, il perçoit que Eminem a quelque chose en plus. Quelque chose qui s'appelle le talent, figurez-vous. Et il sait aussi que la culture hip-hop, sa culture, celle qu'il a en partie participé à fonder, en a besoin à ce moment-là. En cette fin de décennie 99, le monde du hip-hop est encore marqué par les assassinats coup sur coup quelques années plus tôt des deux stars ennemis, Tupac et Notorious Big. À l'image d'un Puff Daddy, le rap pousse l'extrême, une esthétique bling-bling et gangster chic. Et puis, le moment est baroque. On voit des rapprochements entre rap et rock, avec des groupes comme Limp Bizkit ou Korn. C'est aussi l'époque de Jackass et South Park, une esthétique et un ton trash, acerbe, ironique. Au cinéma, American History X et Fight Club sont crûment la violence des conflits qui gangrènent les États-Unis. Alors, voir ce gamin blanc de Détroit surgir, rapper des propos obscènes, mais en même temps parler de sa détresse, avec cette sincérité, cet humour qui le caractérise, ça, ça crée un choc, une nouveauté.
Mon inspiration vient de la colère. Il y a beaucoup de choses qui vont mal dans ce monde. C'est ce qui me donne la haine. C'est un peu mon carburant, si vous voulez. Quand il y a des trucs que je n'aime pas, j'aime en parler. Je crois que le truc principal que les gamins doivent savoir, mais ils le savent déjà, c'est de ne pas prendre tout ce que je dis au premier degré. Parce qu'au final, c'est seulement du divertissement. C'est vrai que la plupart de ce que je raconte, c'est mon point de vue, d'où je viens, mes origines, et beaucoup de ces conneries sont de la blague.
En tout cas, ça marche. Le Slim Shady LP rencontre un premier succès, notamment grâce au single et au clip de My Name Is, qui tourne en boucle sur MTV. Près de 3 millions d'albums sont ainsi vendus en un an. Eminem gagne 2 Grammy Awards. Dès ses premiers LP, il fait la une de Rolling Stone, le magazine musical américain. C'est le signe qu'Eminem touche un public plus large, au-delà du cercle rap, mais aussi blanc et rock. Seulement voilà, dans un pays où la famille et ses valeurs sont sans cesse brandies comme le fondement de tout, voir un jeune rappeur renier sa mère, parler de féminicide, insulter à tout va, c'est évidemment insupportable. Mais de son côté, Eminem assume tout. C'est un personnage qui raconte ça. Ce sont des mots. Lui n'a jamais frappé ou violenté sa femme dans la vraie vie. D'ailleurs, il se marie à l'été 99. Et puis, personne ne s'offusque de la violence des films de Tarantino ou des paroles choquantes du rock. Non, ce qui gêne, c'est qu'Eminem tend ce miroir à l'Amérique. Qu'il joue avec cette insulte que les classes supérieures utilisent et adorent, « white trash », cette façon méprisante de voir le petit blanc paumé perdu de l'Amérique. Eh bien, le voici, le voilà, il s'appelle Slim Shady. Profitez-en, il est là pour vous amuser. Mais avec le succès, inévitablement, Eminem va bientôt soulever les critiques, être confronté à des tempêtes intimes, judiciaires et médiatiques, en même temps qu'il va continuer à conquérir la planète. Slim Shady's are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shady's are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records, well I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? Shit, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV. Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim. I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. Sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sent here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up. Stand up, please stand up. I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on the mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking off at Jergens and I'm jerking. But this whole bag of Viagra isn't working, and every single person is a Slim Shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings, or in the parking lot circling, screaming I don't give a fuck, with his windows down and his system up. So will the real Shady please stand up and put one of those fingers on each hand up, and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go? I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes I'm the real Shady, all you other Slim Shadys are just imitating, so won't the real Slim Shady please stand up, please stand up, please stand up.
Yes, it's a Slim Shady in all of us.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Eminem l'éminent.
Affaires Sensibles. Fabrice Drouel.
À propos de rap, retour sur un concert controversé, un concert unique du rappeur américain Eminem, un blanc-bec de Détroit, superstar du rap avec 25 millions d'exemplaires de son dernier album, mais surtout des scandales parfaitement médiatisés et des déclarations sexistes qui n'ont rien de poétique. D'autant plus inquiétant que les jeunes se pressent à ces concerts, au grand regret souvent des parents. Illustration hier soir à Bercy.
Pour le peu que j'en ai entendu, je pense que c'est un connard de facho, raciste, anti-tout. Et c'est un très mauvais modèle, un très mauvais exemple pour nos enfants. Et si j'avais su qui il était, j'aurais pas laissé venir ma fille.
Moi, je comprends pas personnellement ce qu'il dit, alors...
Ouais, on comprend pas mal, ouais, il est fou, mais il est terrible, c'est pour ça qu'on l'aime, hein. Franchement,
c'est ça qui fait du bien, c'est qu'il expulse, tu vois, toutes nos pulsions, tu vois ce que je veux dire. C'est son esprit provocateur. Moi, j'ai rien contre les homos, c'est clair, mais faut le prendre au deuxième, deuxième degré. Faut pas à la lettre. Le mec, c'est dans son style, quoi. C'est son esprit, c'est l'esprit Eminem, quoi. Enfin, je sais pas, je comprends pas que les gens ils comprennent pas. C'est comme Eminem, quoi. Ils disent des trucs, c'est au deuxième degré qu'il faut les prendre. Même eux, ils le disent. Donc, il s'est grave donné à fond. Il est trop beau. Il a un beau cul, il déchire. Et qu'est-ce que je voulais dire?
Eminem.
Et je t'aime, Eminem. Voilà, quoi.
Après la déflagration de Slim Shady LP. Dr. Dre et Eminem le savent, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, donc enchaîner. Le 23 mai 2000 sort The Marshall Mathers LP avec une recette qui commence à être connue, un tube en forme de ritournelle provocatrice qui entre dans la tête. Et cette fois, c'est The Real Slim Shady qui place Eminem en tête des charts. Porté par ce titre, il entre dans une autre dimension. Plus d'1,5 million albums vendus en une seule semaine, le deuxième plus gros démarrage de la pop musique. Les ventes explosent partout à travers le monde. Eminem passe en boucle sur les radios, à la télé, la tournée s'annonce incroyable. Oui, mais voilà, avec le succès, la polémique enfle, comme souvent. Le faux provocateur Slim Shady est bientôt rattrapé par le vrai scandale Marshall Mathers. En juin 2000, Eminem est arrêté pour avoir menacé avec son arme déchargée un homme proche d'un groupe de rap ennemi à Détroit. Le même jour, il en frappe un autre en boîte de nuit parce qu'il le soupçonne d'avoir embrassé sa femme, Kim. Sans compter l'action en justice lancée quelques mois plus tôt par sa mère qui lui réclame 10 millions de dollars pour l'avoir accusé, à tort, de négligence parentale et d'usage de drogue. Elle ira même jusqu'à composer un morceau en forme de lettre pour se plaindre.
Dear Marshall, I just want to start by saying I still love you.
Cher Marshall, je veux juste commencer par te dire que je t'aime toujours.
Even when I was pregnant with you,
quand j'étais enceinte de toi, c'était très dur pour moi. Chaque minute de toutes ces heures de torture en valait la peine. J'ai regardé dans ses grands yeux bleus. Et c'était la première fois que je ressentais un véritable amour de toute ma vie. Nous avons un problème, Marshall. Ces deux dernières années, quelque chose a vraiment mal tourné. Je suis tellement heureuse pour ton succès, mais tellement déçue par ta trahison. Jouer à la fois le rôle de maman et de papa a dû t'épuiser plus que je ne l'aurais imaginé. Marshall, j'ai fait de mon mieux.
I went without so you could love, created a spoiled young man, an angry one too.
Avec le succès, Eminem redécouvre aussi les membres de sa famille. Son père, qu'il a abandonné à 9 mois et qui n'a jamais essayé de le recontacter, se manifeste. Toutes ces affaires ne font qu'accroître son image sulfureuse et amplifier le phénomène. Surtout que dans cet album, et notamment lors de la tournée, Eminem n'a pas décidé de se calmer. Dans l'une de ses chansons, Kim, il met en scène le meurtre de sa femme. Sur scène, lorsqu'il chante ce morceau, il prend une poupée gonflable dont il simule la mise à mort. On n'en est pas là dans la vraie vie, bien sûr, mais leur relation est de plus en plus houleuse. Et puis, Kim ne va pas bien. Comme lui, elle est dépressive, prend des médicaments, se drogue. Alors qu'il est en concert à Détroit, elle se taille les veines. Sa mère s'en rend compte à temps, appelle la police et la sauve. Ses affaires alimentent inévitablement la polémique autour du rappeur. En 2000, il devient avec 9 millions d'albums vendus le plus gros vendeur de l'histoire du hip-hop. Sa nomination dans plusieurs catégories aux Grammy Awards de 2001, notamment celle de meilleur album de l'année, sert d'étincelle. Des associations comme GLAAD, en défense des homosexuels et des droits des femmes, prennent la parole pour dénoncer la promotion faite à un artiste aux paroles homophobes et misogynes. Des manifestations devant le siège des Grammy sont organisées. Certains artistes montent au créneau comme Moby. La polémique remonte même jusqu'à la femme du vice-président Lynn Cheney, qui prend la parole pour dénoncer les propos du rappeur.
C'est un misogyne violent. Il prône le viol et le meurtre de sa mère dans l'une de ses chansons. Il se glorifie dans la même chanson de l'idée qu'il pourrait assassiner n'importe quelle femme qu'il rencontrerait.
En réponse, Michael Green, le directeur des Grammy, soutient le choix de l'Académie et de l'artiste au nom de la liberté d'expression. Face à ce tourbillon, Eminem continue de défendre sa position. Sa musique est un exutoire, une thérapie. Il n'a jamais eu de gestes violents à l'égard de sa femme. La relation est tumultueuse, dure, certes, mais il exorcise tout cela en chanson. Surtout, Eminem reçoit aussi de nombreux soutiens d'artistes, de journalistes. Et puis, encore plus inattendu, du chanteur Elton John, homosexuel et grand défenseur de la cause. Sur la fameuse scène des Grammy Awards, comme une réponse éclatante, il se dévoile au moment dans le refrain du tube Stan, normalement chanté par la chanteuse Dido.
Read about your Uncle Ronnie too, I'm sorry. I had a friend kill himself over some bitch who didn't want him. I know you probably hear this every day, but I'm your biggest fan. I even got the underground stuff that you did with Scam. I got a room full of your posters and your pictures, man. I like the stuff you did with Ruckus too, that shit was fat. Anyways, I hope you get this, man. Hit me back, just a chat. Truly yours, your biggest fan, this is Stan.
But you scum cold among the rhyme. I got out of bed at all.
Sur 5 nominations, Eminem en remporte 4 ce soir-là, mais manque celle de l'album de l'année. Mais une fois encore, Eminem surprend, joue le contre-pied. Dans cette chanson Stan, il raconte l'histoire d'un fan obsédé qu'il essaie de raisonner. Ce morceau devient un tube planétaire, et surtout, il envoie un message fort. Ne prenez pas ce que je dis au pied de la lettre. Porté par ses succès au printemps 2002, il sort un nouvel album, The Eminem Show, qui marque une nouvelle étape, celle de la conquête du grand public, en même temps que l'émancipation vis-à-vis de son mentor, Dr. Dre. Pour la première fois, Eminem passe producteur et compose une grande partie de l'album, affirmant dans ce domaine également un talent incroyable, au-delà de celui du parolier et du rappeur. Dans ses productions, on sent une influence beaucoup plus rock. Il sample des riffs d'Aerosmith ou d'AC/DC. Dans les paroles ensuite, pointe une forme de rédemption. Le rappeur reste évidemment provocateur et violent, mais il adoucit légèrement le trait. Il n'y a plus de paroles homophobes et surtout, il ouvre un nouveau champ. Fini le récit de sa vie de galère, il raconte désormais sa vie de star, le succès et ses excès, le show Eminem quoi. Dans une Amérique frappée par les attentats de 2001 quelques mois plus tôt, son discours se politise. Et là encore, il en profite pour choquer. Il se déguise en Ben Laden qu'il fait danser avec ses amis du groupe D12. The Eminem Show est le disque de tous les records. Numéro 1 du Billboard américain, il est l'album le plus vendu à travers le monde cette année-là.
Tell these people something they don't know about me.
Pourtant, c'est par une autre porte qu'Eminem va encore surprendre son monde. Le 11 novembre, quelques mois après The Eminem Show, sort sur les écrans le film 8 Mile, dans lequel Eminem joue le rôle principal. Celui de Jimmy B. Rabbit Smith Jr., jeune blanc de la ville de Détroit, qui veut s'imposer dans les battles de rap. D'où cette séquence finale restée dans toutes les mémoires où Eminem bat son rival. Il devait être écrit quelque part que l'année 2002 serait celle d'Eminem. Encore une fois, l'artiste ne fait pas comme tout le monde. Au lieu de l'habituel biopic sur son incroyable parcours, il endosse les traits d'un personnage. Comme son titre l'indique, 8 Mile, du nom de la célèbre route qui marque la séparation à Détroit entre les ghettos blancs et noirs, le film est une véritable déclaration d'amour à sa ville et à ce milieu des battles dans lequel il a tout appris. Clin d'œil à l'histoire, c'est Proof qui arbitre la battle finale du film 8 Mile, comme quelques années plus tôt quand tout a commencé au Hip Hop Shop.
«
Le film est porté par une impressionnante bande originale où se mêlent classiques et titres originaux, en grande partie produits par Eminem, et surtout une chanson principale, Lose Yourself, où pour la première fois, Eminem rappe de manière littérale un message très américain d'encouragement, de pouvoir et de réussite. Si tu essaies, si tu t'accroches et que tu crois en tes rêves, tu peux y arriver, chante-t-il. Cet alliage d'un rôle parfaitement joué, où Eminem fait preuve d'humilité, fait une fois entrer l'artiste dans une nouvelle dimension, encore une. En février 2003, il remporte un Oscar, une première pour un rappeur, et le Grammy de meilleur album de l'année. Eminem est sur le toit du monde. Pourtant, derrière cette ascension exceptionnelle, Marshall Mathers, l'homme, lui, vacille. Il faut tout de même se rendre compte du rythme effréné sur lequel il vit depuis 1999. En seulement 4 ans, il a sorti 4 albums, un film et a fondé son label, le tout sur fond d'affaires judiciaires et privées, d'un divorce avec sa femme, autant d'événements qui l'ont mené devant les tribunaux. Et puis il est allé tourner partout à travers le monde. Alors, au moment où il s'apprête à se lancer dans une nouvelle, à l'été 2003, eh bien ça craque. À bout de force, complètement dépendant des somnifères, il annule la tournée européenne. Après un passage en cure de désintoxication, il parvient à remonter un peu la pente. Mais bientôt, en 2006, une terrible nouvelle là-bas, de nouveau.
Le hip-hop a perdu un nouveau soldat. Dishon Houghton, connu sous le nom de Proof, membre du groupe D12 et ami du rappeur Eminem, a été tué à la sortie d'un club à Détroit.
C'était un peu comme si j'étais, vous savez, coincé dans ce moment. À ce moment-là, j'avais l'impression que c'était la fin du monde. Toute cette période a été l'endroit le plus sombre que j'ai jamais connu de ma vie. Je l'ai pris durement. Je l'ai pris très mal. Et comme je l'ai dit, quand c'est arrivé avec les pilules que je prenais, c'est là que j'ai commencé à m'enfoncer dans la spirale. J'avais déjà un problème de drogue. J'avais déjà une dépendance à laquelle je devais faire face quand c'est arrivé. Je pense que c'était une sorte de chose qui s'est déclenchée dans ma tête comme « puis merde quoi ». Je pourrais tout aussi bien en prendre plus. Peut-être que ça va m'aider à passer à travers. Et la vérité, c'est que ça n'a pas aidé.
Prouve son meilleur ami, rattrapé par la terrible réalité de Détroit. Tragique symbole. Ils venaient de tourner un clip ensemble quelques semaines plus tôt qui mettait en scène Proof, justement, se faisant tuer par balle dans les rues de la ville. Et c'est le coup de trop pour Eminem. Il retombe dans une profonde dépression, reprend ses addictions et fait une overdose en 2007 où il passe à deux doigts de la mort. Après quoi, il décide de se soigner, vraiment. Il disparaît des radars pendant plusieurs années, mais il reviendra de nouveau avec succès. Reste que pendant 5 ans, à coup de scandales et de talents, la comète Eminem est venue fracasser et révolutionner la pop culture de sa trajectoire et de son œuvre unique. Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's joking now. The clock's run out, time's up, over, plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. But he choke, he's so mad, but he won't give up daddies. He know he won't have it, he knows his whole back's at his ropes. It don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke. He's so stagnant, he knows when he goes back to this mobile home. That's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do it. Lose his health in the music, the moment you own it, you better never let it go. You only get one shot, do not miss your. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter aujourd'hui. Eminem, dont nous parlons avec notre invité, le journaliste musical Jean Morel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également fondateur du média rap Grunt et vous portez une casquette.
Évidemment.
Alors, au-delà de la musique qu'est le rap, qui est d'ailleurs la musique la plus écoutée au monde aujourd'hui, je crois.
Hein, oui.
C'est la musique numéro un. Bien sûr, au-delà de la musique, c'est une culture, c'est un comportement, c'est un look. Qu'est-ce que c'est le rap pour vous ?
Waouh, ben c'est parfaitement résumé. C'est une culture, c'est une, je pense que c'est un mode de pensée, c'est une méthode en fait de pensée. C'est l'idée d'une sorte de curiosité en fait globale. C'est une musique qui vient de la culture du sample, qui s'inspire toujours de plein de choses différentes pour continuer à se renouveler. C'est une musique qui raconte aussi toute une théorie et des fantasmes de ce qu'on appelle le come-up aux États-Unis, c'est-à-dire l'idée de raconter des parcours de gens qui viennent un peu comme Eminem, de rien du tout, et qui atteignent des choses absolument incroyables. Et je crois que c'est quelque chose qui me touche beaucoup en termes de culture, parce que c'est souvent la méthode d'expression des gens qui sont les plus marginalisés, les plus invisibilisés. Et donc, du coup, je trouve qu'il y a toute une théorie aux États-Unis, ils appellent ça le Black CNN. C'est l'idée de raconter, en fait, d'être le CNN de la rue et de raconter une autre réalité que les médias ne racontaient pas forcément. Et je pense que c'est un peu ce condensé de tous ces rapports que j'ai à cette musique qui fait que je l'aime et qu'elle se renouvelle tout le temps et qu'elle renouvelle ma curiosité pour cette musique.
Il y a aussi la dimension des mots.
Bien sûr.
Parce que ça, c'est important dans le rap. Les mots deviennent une matière archivivante avec lesquelles on joue. Et c'est d'ailleurs un art pas facile. Hein.
Exactement. En fait, les flots sont presque une forme de partition.
Oui, les flots, c'est ça.
Exactement. Mmh. C'est-à-dire, c'est une manière de faire rebondir les consonnes, les voyelles, les mots, les étirer, les transformer. Il y a une question aussi d'oralité, de l'interprétation. C'est-à-dire que ce sont des textes qui ne sont pas pensés pour être lus à l'écrit, en fait. Ils sont pensés vraiment pour être écoutés en musique. Et ensuite, il y a quelque chose de l'ordre de la virtuosité, comme vraiment. Il peut y avoir des musiciens virtuoses, il y a quelque chose de savoir maîtriser cette rapidité, cette diction, cette scansion qui ont fait qu'on devient meilleur que les autres, ce qui est en plus l'archétype même de la définition d'un rappeur qui veut toujours être meilleur que les autres.
Oui, c'est l'acrobatie des mots. Hein.
Exactement.
Vraiment. Alors, quel souvenir vous gardez-vous de l'arrivée d'Eminem ? Je disais Eminem l'éminent parce que c'était joli, c'était un peu rap. Quoi. On s'amuse avec les mots, mais c'est vrai qu'il c'est une éminence, il est éminent, c'est un chanteur éminent. Quoi.
Je dirais que j'ai deux souvenirs d'Eminem. En fait, j'ai eu deux souvenirs à différents moments de ma vie. Il y a le premier souvenir qui est le souvenir où en fait je suis exactement la cible de sa musique et un peu la cible des inquiétudes qu'avaient les parents à l'époque pour ceux qui écoutaient Eminem. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis collégien quand Eminem débarque et à ce moment-là je pense qu'on est vraiment au sommet du soft power américain avec un seul canal qui est la télévision et donc MTV. Donc en fait on est tous abreuvés de ces images qui viennent des États-Unis et qui sont vraiment pour nous en fait le rêve américain de toute la culture vient de là-bas, etc. Et a posteriori en réécoutant ces disques, parce que c'est vraiment une discographie qui m'est très chère et que je réécoute, j'ai en fait compris plus tard en grandissant que j'avais affaire à quelque chose qui était en fait la discographie que tous les Américains ne voulaient pas vraiment voir, c'est-à-dire l'idée de vouloir il fallait cacher son regard de ce que représentait Eminem, parce qu'il représentait en fait tous les échecs fondamentalement des États-Unis. Et je trouve qu'en fait il y avait quelque chose de très crépusculaire dans sa musique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tout ce que l'Amérique, on va dire, de Trump déteste est en fait l'incarnation presque des mêmes, alors que c'est quelqu'un qui leur ressemble en fait d'une certaine manière.
Cachez-moi ce miroir que je ne saurais voir.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Alors, il y a aussi un rapport à l'image, au personnage chez Eminem. Cela dit, le rap n'a pas tout inventé en matière de déguisement. Bowie l'a fait dans la pop et le rock, Alice Cooper l'a fait. Mais enfin, on reprend cette tradition-là. Eminem reprend cette tradition du personnage et de l'habillement.
Bah, en fait, je pense que c'est d'ailleurs ce qui est très bien raconté dans le récit que vous avez fait, c'est qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un qui a tellement subi toute sa vie les foudres, les humiliations, le côté de ne pas être accepté en tant que blanc, évidemment. C'est d'ailleurs comme ça que termine son film 8 Mile, où il détourne en fait le stigmate contre lui-même en disant « dis quelque chose sur moi que les gens ne savent pas déjà ». Donc en fait, je suis tellement nul, et j'étais déjà tellement exposé que j'étais nul, que tu pourras rien dire de plus nul que les gens ne savent pas. Et en fait, je pense que du coup, ce côté cartoonesque qu'il a, ce côté vraiment l'idée de la parodie, est quelque chose qu'il peut s'autoriser en tant que rappeur, puisque de toute façon, il a toujours été pointé du doigt, donc autant être ironique avec lui-même. Oui. Et en fait, le seul endroit où il est précis et minutieux, c'est comme vous l'avez dit, c'est qu'en fait, c'est un artiste aguerri et un rappeur hors pair. C'est-à-dire que n'importe quel pair rappeur n'a pas envie de prendre le risque de faire un featuring avec Eminem. Un featuring, c'est un duo, une collaboration. Et la plupart des rappeurs disent ouh, moi, j'irais pas trop parce qu'il rappe mieux que nous, quand même. C'est un peu une vérité, quoi.
Donc techniquement, c'est un grand artiste. C'est
unique.
Meilleur.
C'est unique. C'est-à-dire qu'en réécoutant, on découvre encore des subtilités de rimes qui sont vraiment incroyables, des placements de rimes qui sont vraiment très uniques, ouais.
Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est le fait qu'on ne comprenne pas que ce qu'il dit est du second, voire du troisième degré. Il a dit 10 fois, 20 fois, 100 fois, mais il n'a pas arrêté de critiquer. Quel est ce mur de l'incompréhension? C'est quand même pas difficile à comprendre.
Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, je pense que c'est la question de la théâtralité qui est en fait paradoxale dans une musique qui se veut la musique de la sincérité. C'est-à-dire que tout ce que racontent normalement les rappeurs sont quelque chose de très sincère, et donc il apporte quand même ce truc de personnage qu'on entend beaucoup dans les interprétations, notamment si vous voyez dans les changements de voix qu'il fait tout le temps. Par exemple, il y a des morceaux où il se répond à lui-même. En fait, il est en train de se mettre en scène. Donc du coup, ce personnage, ce dialogue, je pense que c'est pas facile parce que tout est raconté à la première personne, et du coup, c'est cette dichotomie des personnages qui a toujours été difficile pour les gens à interpréter, je pense.
Alors, on parlait justement de la technique d'Eminem dans les années 2010 avec ce rap le plus rapide de l'histoire. Écoutez. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. JJ Fab. Summon, I'ma do my number. You assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber. So that anything you say is sticking, shaking off of me and it'll glue to you. And devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off. They'll be celebrating, cause I know the way to get them motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a hell of a way to fuse it. Jean-Marie. Là, on voit la technique, là, c'est incroyable.
Ouais, c'est ce qu'on appelle les fast flows. Là, c'est typiquement de l'esbrouf, c'est la beauté du geste, c'est l'amour du geste.
Oui, c'est la perf, quoi.
Ouais, c'est l'idée de prouver, quoi. On a toujours besoin de prouver. Et en plus, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est même une nouvelle terminologie que se donne Eminem lui-même, qui s'appelle le rap god. Donc, il atteint un niveau statut, c'est-à-dire. Et donc, ça, je me rappelle de la sortie de ce morceau, parce que c'était après un long moment de silence, justement. Et il y avait vraiment cette idée, à mon avis, de revenir en disant, regardez encore ce que je sais faire, quoi.
Ouais. Alors, Eminem est blanc. Oui. Et on a un peu insisté là-dessus, j'espère pas trop lourdement, mais je pense que c'est un élément important.
C'est fondamentalement essentiel, en fait, parce que, en fait, je pense que quand je disais que ce que l'Amérique n'a pas envie de voir, c'est justement, en fait, la déclaration d'amour d'Eminem, c'est-à-dire un blanc, white trash, déclassé pour la culture afro-américaine. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il aime et ce qu'il découvre, c'est qu'il découvre cette musique, le hip-hop, il en tombe éperdument amoureux, et du coup, il va chercher toute sa vie à être accepté par cette communauté, avec toujours ce côté, bah en fait, du coup, pardon, mais tu as la couleur de l'oppresseur, fondamentalement, et maintenant, tu veux t'accaparer notre culture. Et c'est comme ça, en effet, qu'il grandit, et c'est donc à force de talent qu'il s'est fait accepter par ses pairs. Et je pense que, du coup, le regard extérieur de cette Amérique républicaine, cette Amérique conservatrice, matrice et réactionnaire, c'était mais attendez, pourquoi est-ce qu'un blanc veut devenir ou veut faire de la musique de noir? Et c'est là en fait où Eminem a, je pense, aussi créé un problème des deux côtés. En fait, il n'a pas été accepté par les rappeurs et pas par le public d'une certaine manière.
Ben justement, on va parler de métissage, mais musical. Je reviens un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Le rap est-il une bonne matière pour se mélanger avec d'autres musiques et créer des métissages musicaux intéressants?
Bah pour moi, c'est une musique presque aspirateur, je dirais, je me tente l'expression, mais encore une fois, c'est la culture du sample. Donc tout ce qui est nouveau est intéressant pour la production rap. Donc dès qu'il y a un nouveau rythme, une nouvelle sonorité, on se dit, mais attends, je peux la découper parce que je peux la sampler, je peux l'échantillonner et je peux la mettre. Donc si on aime la musique électronique, je peux rapper dessus. Si on aime le jazz, je peux rapper dessus. Si on aime la folk, je peux rapper dessus. Donc en fait, c'est une musique qui n'arrête pas de se réinventer parce que du coup, elle peut puiser dans tout ce qui se réinvente et se renouvelle.
Elle pourrait puiser dans la musique classique ?
Elle l'a déjà fait.
C'est déjà fait.
NTM s'est beaucoup permis de le faire. Ouais, il y a beaucoup de rappeurs qui l'ont fait. Il y a justement, en plus, plus on fait quelque chose de presque sacrilège, plus on va encore loin. Donc évidemment, c'est de la provocation. Autant provoquer, allons rapper sur du Beethoven.
Bon, bah ça y est, je suis démasqué, j'ai fait semblant de m'y connaître. Bah voilà. Bon, et puis il va y avoir un Eminem plus engagé, contre Bush, tiens, en 2004. Et puis contre Trump, la preuve.
Et tous mes fans qui le soutiennent, je dessine une ligne dans le sable avec eux. Vous lisez les arguments pour ou contre. Si vous n'arrivez pas à décider qui vous préférez, et si vous ne savez pas qui vous devez soutenir, je le ferai pour vous avec cette ligne. Vous d'un côté, le reste de l'Amérique se lève de l'autre. Nous aimons notre armée et nous aimons notre pays, mais nous avons un putain de problème.
Ça, c'est la question de l'engagement politique et sociétal ou non du rap.
Il y en a évidemment plusieurs types, et là c'est en fait il y a une telle diversité qu'il y a du rap qui est de rap de l'entertainment, ce mot préféré des Américains, c'est le divertissement, d'ailleurs d'accueil beaucoup de gens parfois se cachent d'ailleurs en disant mais ça n'est que du divertissement, et il y a aussi ce rap qui est encore une fois ce je reprends l'expression du Black CNN, c'est-à-dire cette logique de vouloir raconter quelque chose, raconter une vérité. Je pense que le rap est naturellement politique dès lors qu'il met en lumière des gens qui ne sont pas vus, et ensuite il s'est engagé politiquement à de nombreuses reprises, et quelles que soient ses formes, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, États-Unis. Et on sait en plus à quel point les paroles des artistes sont importantes dans les campagnes, notamment américaines. On l'a vu récemment avec Taylor Swift, par exemple, qui pour le coup ne fait pas du rap, mais pour qui la parole comptait. Eminem, il a du coup embrasser tellement cette culture qu'il est en fait du coup presque un porte-parole blanc de causes qui sont des causes noires. C'est pour ça que en fait pour être un rappeur ne peut pas aimer Trump, c'est impossible. Après il y a la démarche supplémentaire de l'affirmer quoi.
Mais est-ce que Trump peut aimer un rappeur ?
Eh bien c'est normalement je ne pense pas. Encore une fois et pourtant hélas il y a des gens qui finissent par basculer du côté obscur de la force dirons-nous qui est celui de Trump et on a vu des rappeurs en effet devenir des soutiens de Trump. Mais pour moi c'est contraire même à ce qu'est l'essence du hip-hop. C'est-à-dire quand on aime le rap on ne peut pas tomber du côté de l'extrême droite et du monde réactionnaire.
Alors, les rapports d'Eminem avec la planète rap, il produit 50 Cent,
bien sûr.
Qui sera quand même l'autre grande star du rap après lui. Ouais. Qu'est-ce que ça raconte, ça ?
Ça raconte que je pense qu'il aime tellement cette musique qu'il comprend, un peu comme Dr. Dre a compris tout de suite qu'Eminem était talentueux, Eminem a compris tout de suite qu'il y avait quelque chose d'unique avec 50 Cent, avec ce parcours de vie. C'est quand même un rappeur qui s'est pris 9 balles dans le corps, qui du coup avait la mâchoire qui avait été transformée à tout jamais, ce qui a changé son flow. Il y avait quelque chose, en plus de ce come-up américain, encore une fois, je prends l'expression, pardon pour les anglicismes, son premier album s'appelle Get Rich or Die Trying, donc devenir riche ou mourir en le tentant. Et en fait, c'est l'incarnation de ce que c'est que le hip-hop. Et encore une fois, il était entouré en plus, Eminem, des plus grands producteurs de cette musique. Donc si on prend un rappeur aussi fort que 50 Cent, on amène Dr. Dre, on les met dans un studio, bah, ça fait une nouvelle légende. Il y a toute une génération pour qui 50 Cent est un des rappeurs les plus importants.
Et Dre, justement, Dr. Dre, quelle place il tient, celui-là ?
Bah,
c'est une institution. Hein.
Mais je pense que j'arriverai même pas à trouver les qualitatifs. C'est le patrimoine, quoi. C'est vrai. C'est vraiment. C'est quelqu'un qui a eu la vision, qui a transformé cette musique, qui inlassablement a eu cette curiosité d'aller trouver des nouveaux talents. Parce que derrière Eminem, bah, je le dis, il y a 50 Cent. Et puis récemment, il y a eu Kendrick Lamar qui vient d'être honoré encore une fois en faisant le halftime du Super Bowl. Donc en fait, il a ce génie, ce flair de comprendre qu'il y a du talent et se dire, je vais me positionner. Vous allez voir, je vais transformer ça en or. Et il l'a fait systématiquement.
C'est le Quincy Jones du rap ?
Totalement, c'est la meilleure métaphore qu'on pourrait trouver, c'est une très bonne comparaison.
Merci. Au moins, il y a d'autres musiques que je connais. Alors, quelle place occupe Eminem dans l'histoire du rap, au bout du compte ?
Je pense qu'il incarne vraiment une sorte de bascule, c'est comme une forme de... En fait, historiquement, on pourrait presque le comparer à une période comme la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a une bascule, pour moi, artistique, il y a une bascule symbolique, et d'ailleurs, en fait, qui est très étonnante, parce que, un peu comme les Beatles, d'une certaine manière, et ce que vous racontez très bien dans le récit, c'est qu'en fait, il laisse 3 disques, mais dans un laps de temps qui est très court, comme les Beatles l'ont fait en peu de temps.
En 8 ans.
Exactement. Et en fait, aujourd'hui, il continue à vendre énormément d'albums, alors que la qualité de ce qu'il produit n'est plus du tout la même. Mais il a cette trace indélébile sur la musique. Parce qu'il a changé les règles du jeu, en fait. Il a autorisé des gens à rapper, il a autorisé des gens à se travestir en le faisant, il a autorisé des gens à prendre des risques, il a autorisé les gens à devenir eux-mêmes dans cette musique. Donc je pense que, bon, encore une fois, pour prendre une expression américaine, c'est un game changer, c'est-à-dire qu'il a changé les règles du jeu, et il a dit, à partir de maintenant, soyez le plus libre possible, autorisez-vous à tout dire. Donc dans l'espèce d'univers un peu du free speech américain, c'est une plaque tournante, je dirais, de la musique. Et aujourd'hui, encore une fois, il est classé par tout le monde dans les idoles absolues et les plus grands rappeurs en tant que virtuose et en tant qu'inventeur, je dirais.
Et je dirais, bah, tant à vous écouter, que personnage influent.
Bien sûr,
dans le rap.
Ouais, encore une fois, éminent. Je pense que ce que vous employez comme terme tout à l'heure veut tout dire. C'est-à-dire qu'il reste. En fait, c'est un phare dans la culture. C'est quelqu'un. En fait, on ne peut pas aujourd'hui prétendre faire du rap sans connaître la discographie d'Eminem. J'irai jusque là. C'est-à-dire qu'il faut connaître. C'est comme quand on fait son solfège. Et bien, quand on fait son solfège de rap, il faut connaître la discographie d'Eminem pour comprendre comment on écrit cette musique.
En 7 secondes, il nous reste 7 secondes. Oula. Qu'est-ce que vous écoutiez, vous êtes encore un jeune homme, hein, qu'écoutiez-vous comme musique avant de découvrir le rap ?
Beaucoup, beaucoup de pop, de rock, beaucoup de guitare. J'aimais beaucoup la guitare et ce truc rebelle aussi qu'a le rock, un peu comme le rap.
Ça, c'était intéressant, justement, parce qu'on pense que beaucoup d'amateurs du rap aussi viennent peut-être de ces racines-là.
J'aime tout.
Merci beaucoup.
Merci infiniment.
Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Eminem, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Gilles Gaillard.